VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Billon, il est 11h, temps universel, bienvenue. Trois membres des forces armées d'Ukraine ont été tués au cours d'une vaste opération anti-djihadiste dans le centre et le nord du Sinaï. En cours depuis une dizaine de jours, a annoncé aujourd'hui le porte-parole de l'armée. C'est la première fois que des pertes du côté des forces de sécurité sont révélées depuis le début de cette campagne, le 9 février, pour nettoyer le Sinaï ainsi que le delta du Nil et le désert occidental frontalier de la Libye. La Cour internationale de justice tient à partir de ce lundi de nouvelles audiences sur le contentieux opposant la France à la Guinée équatoriale qui accuse Paris d'avoir violé l'immunité diplomatique du fils du président équato-guinéen. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis que la justice française a ouvert en 2016 un procès contre Théodorin Obiang, le fils du président Théodoro Obiang et lui-même vice-président équato-guinéen, accusé d'avoir pillé les caisses de l'État et d'avoir acheté des propriétés somptueuses dans les endroits les plus chers du monde, et ce, dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Au Togo, pouvoir et opposition se retrouvent aujourd'hui autour de la table de négociation pour tenter de résorber 6 mois de crise politique. Le régime de Faure Gnassingbé fait face à une forte contestation populaire qui a plongé le pays dans l'instabilité. Éric Manirakiza.
Le rétablissement de la constitution de 1992 qui prévoyait 2 mandats présidentiels, la transition politique au Togo et les réformes électorales constituent les points essentiels de ces assises. La coalition de 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir unir sont représentés par 7 délégués. La participation du gouvernement devrait être discutée durant le dialogue. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'un des facilitateurs de cette crise, va accompagner l'ouverture des discussions. L'ONU, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis à Lomé ont salué la tenue de ce dialogue. Les acteurs politiques togolais sont encouragés à travailler de bonne foi pour aboutir à un consensus. Ces dernières semaines, l'entourage de Faure Gnassingbé a répété dans la presse locale qu'il ne serait pas question de discuter du départ immédiat du chef de l'État ni d'un engagement de sa part à quitter le pouvoir. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les Togolais sceptiques et critiquent la tenue d'un énième dialogue. Depuis l'avènement du multipartisme au début des années 90, une quinzaine de dialogues et de pourparlers se sont tenus à Lomé sans jamais déboucher ni sur une alternance politique ni sur un changement majeur.
Au Soudan, les autorités ont libéré dimanche des dizaines de militants, dont certaines figures de l'opposition, arrêtés le mois dernier lors de protestations contre la hausse des prix. Leur libération intervient 3 jours après que l'ambassade des États-Unis à Khartoum a condamné la détention de ces militants, affirmant qu'ils étaient détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes. La justice nigérienne a libéré 475 nouveaux membres présumés de Boko Haram à l'issue des procès de masse. La majorité des personnes inculpées n'a pas été condamnée faute de preuves suffisantes. Mohamed Oumfa.
D'après le ministère de la Justice, des centaines de membres présumés de Boko Haram ont comparu la semaine dernière devant un tribunal installé dans une base militaire à Kainji, dans le centre du pays. Les personnes libérées seront prises en charge dans leurs états d'origine pour une réhabilitation appropriée. Le tribunal a aussi ordonné à ces états de leur fournir une réhabilitation dans un centre approprié avant qu'ils ne retrouvent leur famille. Les personnes atteintes de troubles mentaux ou avec des problèmes de santé doivent également recevoir des soins médicaux appropriés. La majorité des procès, les premiers du genre au Nigeria, se sont déroulés à huis clos, entraînant les critiques des organisations de défense des droits de l'homme. Au total, 1669 personnes étaient présentées à la barre à l'ouverture des audiences qui avaient démarré en octobre. Un premier groupe de 468 avait alors été libéré au bout de quelques jours.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Congo, Brazzaville, le conflit armé dans le Pool a causé le déplacement de plus de 130 000 personnes et elles ne reçoivent pas régulièrement de l'assistance. Les organisations humanitaires, dont Caritas Congo, appellent à une aide plus structurée dans le Pool. De Brazzaville, le reportage de Ngoula Ngoussou, notre correspondant sur place.
Depuis leur sortie des villages, plusieurs familles des déplacés du Pool attendent toujours d'être prises en charge par les autorités. Leur situation, déjà dramatique, se dégrade au jour le jour, voici 2 ans. Joe Washington et Bina, à la tête d'une fondation qui assiste souvent ces sinistrés, déplorent ce manque d'assistance.
doit trouver des solutions. Mais vous n'avez pas l'impression, depuis un certain moment, on ne parle plus de rien. On parle de cessez-le-feu, qui est une bonne chose, mais à part cela, les populations, qu'est-ce qu'on dit des populations? Et ça, c'est un problème. Et moi, je considère simplement que c'est un abandon.
Caritas Congo indique que l'assistance qui s'organise autour de ces déplacés est encore très insuffisante. Alain Robert Moukouri est le secrétaire exécutif de Caritas Congo.
En termes de besoins humanitaires, il y a une réponse, mais elle est encore insuffisante, parce qu'il y a aussi des besoins en termes d'accès aux soins de santé. C'est vrai qu'on a des programmes avec l'UNICEF, mais avoir une couverture plus structurée et élargie sera une bonne chose pour soulager les besoins des déplacés.
Dans les familles d'accueil où elles vivent, ces populations traversent des moments de grande misère. Pascal Babakana, un déplacé de Mabenga installé dans une famille en Gangalingolo, témoigne à VOA Afrique.
Depuis que je suis arrivé ici, on s'est débrouillé pour avoir quelque chose. Aller d'abord en brousse, chercher quelque chose à manger, vendre même le bois. C'est ce que nous amenons ici, là, pour vivre. Il faut amener le bois et venir vendre ça en Gangalingolo.
D'autres déplacés racontent ici leur déboire à Brazzaville.
Mais on dort seulement sur la terre. Pas de moustiquaires, vraiment, on souffre, on doit repartir. Même s'il n'y a plus rien, mais on doit repartir. Parce que ici, là, vraiment, ça ne tient pas.
Ma situation à Brazzaville est très malheureuse. Il y a des moments où je passe les nuits dans les marchés. Il y a des moments où je passe les nuits dans les vieilles funèbres. Voyez, jusqu'à ce jour, rien de concret, rien de concret.
Récemment, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Todd Haskell, a apporté une assistance à ses déplacés. L'ONG Lucuda, par son président Gaspar Mienantima, évalue ici la distribution de cette aide, accusant par ailleurs le gouvernement de n'avoir rien fait jusqu'alors.
Tout dernièrement, nous avons appris que les Américains, effectivement, venaient encore de servir quelques déplacés. Nous avons fait la ronde des ménages pour vérifier si tout le monde, cette fois-ci, a été pris en ligne de compte. Malheureusement, c'est le même scénario qui revient. Une partie a été servie, une partie délaissée pour compte. Pourquoi cette discrimination, d'abord abandonnée jusqu'aujourd'hui par notre gouvernement qui jusque-là ne fait aucun geste sur ces déplacés?
Après la signature des accords de paix dans le Pool, les populations attendent désormais le calendrier de retour dans leur village. Ngwelangusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Zimbabwe, le dirigeant de l'opposition Morgan Tsvangirai sera enterré demain dans son village natal de Buera, à 250 km au sud de Harare. Il est mort mercredi à l'âge de 65 ans d'un cancer du côlon. La dépouille de l'opposant historique à Robert Mugabe est arrivée samedi à l'aéroport d'Harare en provenance d'Afrique du Sud, où il est décédé après une hospitalisation. Des élèves survivants de la fusillade de Floride aux États-Unis, ici aux États-Unis, ont annoncé dimanche qu'ils manifesteraient à la fin du mois de mars à Washington pour un contrôle plus strict sur les armes à feu. Un débat récurrent que les États-Unis échouent régulièrement à faire avancer. Le couple chez lequel vivait depuis novembre Nicolas Cruz, l'auteur de la tuerie dans ce lycée de Floride, a décrit dans une interview publiée dimanche un jeune homme bizarre qui n'avait à aucun moment laissé paraître ses tendances à la violence. Donald Trump, pour sa part, le président américain, a affirmé dimanche que la Russie avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous à semer le chaos aux États-Unis, critiquant les nombreuses enquêtes et auditions menées sur ce dossier. Le FBI passe trop de temps à enquêter sur les interférences russes dans l'élection de 2016, a également affirmé le chef de l'exécutif américain, qui a critiqué la police fédérale pour n'avoir pas su empêcher la fusillade qui a fait 17 morts mercredi dans un lycée de Floride.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et les principaux candidats à l'élection présidentielle mexicaine de juillet prochain ont lancé dimanche leur candidature lors de plusieurs rassemblements dans la capitale. Actuellement en tête des sondages, le candidat de gauche, Andrés Manuel López Obrador, âgé de 64 ans, fait figure de favori. Et finalement, les secours iraniens ont repris aujourd'hui, ce matin, les opérations de recherche de l'avion de ligne porté disparu depuis dimanche alors qu'il survolait une région montagneuse du sud-ouest de l'Iran. Les autorités avaient suspendu les opérations de recherche à cause des conditions météorologiques difficiles. Les autorités estiment que l'avion, qui avait à son bord 66 passagers, s'est écrasé et tous ses passagers sont présumés morts. Jean-Roger Lyon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.